La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le titre de la présentation de ce matin est « La Bible parle-t-elle de quatre dîmes ?» Et cela est une réponse à un dénommé William Cedric Jick, ou J.K., d'accord, du ministère Venez et Raisonnons, ou La foi raisonnée. Il en a deux. Et comme vous le savez, bien-aimés, mes messages se veulent d'être pertinents, d'accord? C'est-à-dire, ils se veulent de traiter des questions, d'accord, que des... Vous posez, d'accord, que des gens se posent. Or, au cours de ces dernières semaines, un certain nombre de personnes m'ont fait état de leur confusion quant à la dîme, car ils ont entendu dire qu'il y aurait en réalité quatre dîmes. Et je dois vous avouer très sincèrement que je n'avais jamais entendu parler de cette théorie. Et comme pour le sabbat lunaire, les fêtes juives et toutes les doctrines de ce genre, ce que l'on pourrait qualifier de nouvelles doctrines, des choses qu'on n'a jamais entendues, je me suis penché sur ce sujet, voyez-vous. Bien évidemment, en commençant par écouter ceux qui prêchent cette théorie, d'accord? Et je me suis rendu sur Internet et j'ai tapé quatre dîmes, quatre sortes de dîmes, et je suis tombé sur la vidéo la plus regardée sur YouTube, qui est celle d'un dénommé Chora Kuetu, si je prononce bien son nom, qui est un prédicateur évangélique, d'accord, africain, ok, qui donne un message là-dessus, d'accord, qui expose ces quatre dîmes, d'accord. Et j'ai écouté son message, d'accord, et à la suite de ça, j'ai écouté le message de... de M. William Cedric Jick, qui est affiché à l'écran, d'accord, lequel a pour titre « La vérité sur la dîme », d'accord, voici pourquoi les pasteurs et prédicateurs ont peur de ce message, partie 1, d'accord. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était presque point pour point ce que M. Chora Kuetu est en train de dire, en fait, d'accord. Bon, je ne vais pas rentrer dans un cherche à savoir si il s'est inspiré de lui ou pas, ce genre de choses. Mais je dis juste que c'est ce que j'ai noté, d'accord? Après, peut-être qu'ils ont la même inspiration, peut-être que, bon, je ne sais pas. Et alors que j'étais en train d'écouter attentivement M. William Cedric J.K., j'étais en train d'examiner les textes qu'il apportait pour soutenir ça. Et je fus surpris de voir que cette théorie ne supporte ni le test de la Bible, et encore moins celui de l'esprit de prophétie, mes amis. Et avant d'aller plus loin, je tiens à clarifier un point, ok? Qu'il soit clair qu'il ne s'agit pas ici d'un règlement de compte, ou encore moins d'une attaque personnelle, d'accord? La vie personnelle de M. Chora Kuetu ou de M. William Cedric J.K. ne m'intéresse absolument pas, d'accord? Et elle ne fera absolument pas l'objet d'une quelconque étude de ma part ou je ne sais trop quoi, d'accord? Ce n'est pas absolument pas cela, d'accord? Donc, que les gens ne se méprennent pas, il ne s'agit pas d'une attaque personnelle. Durant cette heure, nous allons simplement chercher à savoir si la théorie des quatre dîmes est biblique, voyez-vous? Car la Bible dit, en Proverbe 28, verset 17, « Celui qui plaide le premier paraît juste, mais sa partie vient et l'examine, d'accord? » Monsieur William Cedric J.K. a, dans l'adventisme en tout cas, plaidé le premier en faveur de ce message, d'accord, sans consulter ses dirigeants, les dirigeants de son église, ok, l'organisation religieuse dénommée Église Adventiste du Septième Jour, et personne ne lui a apporté une réponse publique, d'accord. Mais aujourd'hui, la chose va changer. La présentation de ce matin sera la première partie d'une série d'études destinées à répondre à M. William Cedric J.K. Parce que, en ce matin, nous allons prendre point par point, je crois, je n'ai pas vérifié, mais les quelques 40 premières minutes du message que je vous ai demandé de considérer hier. Parce qu'il faut savoir que je vous ai demandé d'écouter son message. Je ne suis pas quelqu'un de malhonnête qui vous cache ce qu'il a dit et puis je vais falsifier ce qu'il aurait dit pour vous dire qu'il a dit ça, l'autre n'a pas dit ça. Non. Hier, je vous envoie le message, je vous dis écoutez-le parce que demain, on va clarifier cette question-là. Voilà. Qu'on le sache, d'accord? Je n'ai pas peur de partager les vidéos des gens qui annoncent des théories que je réalise être erronées. Si vous voulez vous abonner à sa chaîne, c'est très bien. Ça ne me regrette pas, en fait. Ce n'est pas ça le plus important. Mon objectif ici, c'est de clarifier la question, d'accord? Nous allons juste ce matin considérer et réexaminer, passer en revue les quelques 40 premières minutes du message, uniquement sur l'Ancien Testament, d'accord? Parce que dans la vidéo qui est affichée, il traite aussi du Nouveau Testament, d'accord? Mais comme il y a beaucoup de points à reprendre, à passer en revue et à rectifier, cela va nous prendre toute l'heure, d'accord? À partir de la minute 2 et de la seconde 25, Monsieur William Cedric J.K. cite Genèse 14, versets 17 à 20. Et au passage, je tiens à dire que pourquoi cette réponse, ce message est une réponse à M. William Cedric J.K., c'est parce que je suis un pasteur adventiste, d'accord, du septième jour, non théologiquement modifié, d'accord, et que ce monsieur se prétend être un prédicateur adventiste du septième jour, d'accord, et que c'est principalement vers lui que les gens m'ont redirigé pour examiner cette théorie, d'accord, ou du moins on fait référence à lui. Donc, M. Chora, qui est dans le mouvement évangélique, peut-être qu'il entendra la réponse, mais il est plus judicieux de répondre à quelqu'un qui est dans la même mouvance, je dirais, que vous, surtout quand cette personne se revendique croire en l'esprit de prophétie. Genèse 14, versets 17 à 20. Il est dit, et donc il parle de la première mention de la dîme, donc avec Abraham, d'accord? Et le roi de Sodome sortit au devant de lui après qu'il fut revenu de battre Kedor la Homère et les rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu très haut, et il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. La première allégation que M. William Cedric J.K. fait sur ce texte est que Abraham, ou Abraham, donne la dîme sur le butin de guerre, et très précisément sur son butin de guerre, et pas sur ses biens personnels. D'accord? Voilà la première allégation qu'il fait. Que Abraham a donné la dîme sur son butin de guerre et pas sur ses biens personnels. Mais mes amis, cela est faux. Le butin de guerre qu'Abraham avait emporté de sa bataille était celui, d'accord, que le roi Kedor Laomer avait volé au roi de Sodome. D'accord? Genèse 14, versets 8 à 12, lisons. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Soar, sortirent et rangèrent leurs troupes en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. D'accord? Et contre Kedolaomer, roi des lames, Tidéal, ou Tidil, ça dépend comment on le prononce, roi des nations, Amraphel, roi de Chinéa et Arjok, roi d'Elassar, quatre rois contre cinq. Or, il y avait dans la vallée de Sidim beaucoup de puits de bitume. Et le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent. Et ceux qui échappèrent s'enfuirent vers la montagne. D'accord? Alors, ils prirent toutes les richesses. Et notez cela. Alors, ils prirent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et tous leurs vivres et s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait dans Sodome et tout son puits, et ils s'en allèrent. Donc, il s'agit ici des richesses que Kedolaomer a pris au roi de Sodome et de Gomorre. D'accord? Maxen, imagine que quelqu'un, tu as 2000 euros, que quelqu'un vole tes 2000 euros. D'accord? Ok, garde ça, d'accord? La Bible dit qu'Abraham a ensuite ramené ses richesses. OK? Du verset 14 au verset 16. Et quand Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses fidèles nés dans sa maison et poursuivit ses rois jusqu'à Dan. Puis, ayant partagé ses troupes, il se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs. Et il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à gauche de Damas. Et il ramena toutes les richesses qu'on avait prises. Il ramena aussi l'eau de son frère, ses biens et les femmes aussi, et le peuple. D'accord? Donc, Abraham a ramené les richesses. D'accord? Maxime, on a volé tes richesses, on a volé tes 2000 euros, d'accord? Mais moi, je pars à la derrière ces messieurs qui ont volé 2000 euros et je les ramène, d'accord? Je les ramène, ok? Et mes amis, nous pouvons être sûrs que Abraham a tout rendu, a rendu toutes les richesses. Pourquoi? Car au verset 22 à 24, il est dit: et Abraham dit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre, que je ne prendrai pas même un fil ou une courroie de souliers, rien qui t'appartienne, en sorte que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham. D'accord? Et verset 24, rien pour moi, seulement que les jeunes hommes ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi, Anéa, Eskol et Mamré, pour eux qu'ils prennent leur part. Mais alors, que dire? Que dire de Hébreux 7, verset 4, qui dit: « Or, considérez combien est grand celui à qui Abraham, le patriarche, donne la dîme du butin. » Là, l'apôtre Paul, en apparence, dit qu'Abraham a donné la dîme du butin. D'accord? Le terme qui est traduit par butin vient de « ak roph in eon ». D'accord? Et c'est un terme grec. Et sa définition est la suivante. Sommet d'un tas, les premiers fruits, d'accord? Le meilleur d'un butin ou d'une récolte. Le mot grec vient de ce que la meilleure partie choisie au sommet d'un tas est offerte aux dieux, d'accord? Donc, il n'a pas que pour définition, et d'ailleurs, au passage, ce terme, c'est la seule fois qu'il apparaît dans le Nouveau Testament, il n'a pas que pour définition butin, mais aussi, on voit le sommet d'un tas, les premiers fruits, d'accord? Ou le meilleur d'un butin ou d'une récolte. D'accord? Car voyez-vous, ce serait vraiment étrange qu'on ait volé à Maxène ses 2000 euros, que j'aille chercher ces 2000 euros et que je paye la dîme sur les 2000 euros de Maxène, en fait. Vous trouvez ça normal que je fasse ça? Ce n'est pas normal, mes amis. Et voyez-vous, l'Esprit de prophétie confirme qu'il a tout rendu. Dans la lettre 158 de l'année 1896, paragraphe 2, « J'avais un message très solennel pour le peuple au sujet de la dîme et des offrandes. Certains de ceux qui étaient présents avaient prétendu ne pas pouvoir comprendre la question de la dîme. Étaient-ils incapables de percevoir pour discerner cette question aussi ancienne et lointaine que l'époque d'Abraham? Après avoir conquis les rois et récupéré les biens volés aux habitants de Sodome et les captifs, il les rendit au roi de Sodome. » L'Esprit de prophétie confirme qu'il a rendu les biens au roi de Sodome. Donc, a-t-il payé la dîme sur ça, sur ce but-là? Non, mes amis. Et remarquez ce qu'elle dit dans Jésus-Christ, page 614, paragraphe 1. Le principe de la dîme a été établi par Dieu et était observé depuis les temps les plus reculés. Abraham, le père des croyants, paya la dîme de tout ce qu'il possédait. Or, rappelez-vous que Monsieur William Cedric Jike a dit que Abraham n'a pas payé la dîme sur ses biens personnels, mais sur le butin de guerre. Conseil à l'économe, page 71, paragraphe 1. Ainsi que le fit Abraham, il faut payer la dîme sur toutes ses possessions et tous ses revenus. Une dîme fidèle est la part du Seigneur. La garder pour soi, c'est tromper Dieu. Ainsi que le fit Abraham, il faut payer la dîme sur toutes ses possessions, mais pas que, et ses revenus. L'allégation numéro 2 que fit M. William Cedric Jike est que Abraham n'a pas répété cette action. On ne dit à aucun endroit qu'il avait coutume. Fin de la citation, d'accord? Enfin, ou de la paraphrase, ok? Il dit qu'Abraham n'a pas répété cette action de donner la dîme. Et on ne dit pas qu'il avait pour coutume. Donc la conséquence logique, c'est qu'Abraham a fait ça une fois, mais ce n'était pas une habitude de sa part. Okay? Trouvez-moi un verset où le mot coutume est associé à Abraham dans la Bible. Il n'y en a pas, mes amis. La Bible ne parle jamais explicitement des coutumes d'Abraham. Il est donc erroné de conclure qu'Abraham n'avait pas coutume de donner la dîme, et ce, en raison du fait que la Bible ne le précise pas. Le fait qu'Abraham versa la dîme montre clairement, en réalité, que cette institution n'a pas été un moyen temporaire pour assurer les services sacrificiels, mais qu'il s'agissait d'une pratique divinement instituée depuis les temps les plus reculés. D'accord? En Hébreux 7, versets 8 et 9, par exemple. Et ici, ce sont des hommes mortels qui prélèvent les dîmes. Mais là, il est attesté que celui qui les reçoit est vivant. Et Lévi, qui prélevait les dîmes, les a aussi payés, pour ainsi dire, par Abraham. D'accord? Et l'allégation aussi qui est faite, c'est que ce texte que je viens de lire est employé, si je ne me trompe pas, par M. William Cédric Djiké, pour laisser entendre que, en fait, voilà, c'est pas quelque chose qui était récurrent de la part d'Abraham et qui n'a pas répété ce genre de choses, etc., etc. D'accord? Mes amis, l'esprit de prophétie n'est pas d'accord avec ça. Lettre 44 de l'année 1876, paragraphes 5 et 6. J'ai écouté ce matin un témoignage des plus intelligents de la part d'un frère suédois. Ce jeune homme a un talent qu'il peut améliorer au service du maître. Va-t-il consacrer à Dieu tout ce talent? Frère Lowe rendit un excellent témoignage. Il déclara qu'Abraham donna la dîme de tout ce qu'il possédait à Melchisédek. Nous vivons actuellement sous la prêtrise de Melchisédek et il ne voyait pas pourquoi le même devoir n'était pas attendu de nous, étant donné que nous vivons maintenant sous la prêtrise de Melchisédek. S'il était obligatoire pour Abraham de donner la dîme de tout ce qu'il possédait, cela l'était certainement pour nous. Vous avez compris le raisonnement? Madame White a dit que c'était un témoignage excellent, en fait. C'est pas moi qui le dis. Elle a dit que c'était excellent. Ça veut dire que ce commentaire du frère-là était excellent, en fait. Le frère avait tout compris, en fait. Et on entend dire que Abraham n'a pas donné la dîme, que la dîme s'est arrêtée après. Nous verrons si Ellen G. White est d'accord avec M. William quand il dit qu'Abraham n'avait pas pour coutume de donner la dîme, très précisément, d'accord? On va revenir là-dessus très précisément dans quelques instants. Ensuite, il mentionne la deuxième fois où la dîme apparaît dans le texte avec Jacob, à partir de la minute 5 et de la seconde 31. Il cite Genèse 28, versets 20 à 22. Où allons-nous? OK. Et Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais et me donne du pain pour manger et des habits pour me vêtir et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison de Dieu. Et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. » La première allégation qui est faite sur ces versets, et que la dîme de Jacob était conditionnelle. Quand Jacob quitta la maison de Laban pour retourner vers la terre de son père, il n'a pas accompli sa promesse, car la Bible ne le mentionne pas, dit-il. Mes amis, qui était Jacob? Jusqu'ici, je veux dire. Un homme qui venait de voler son frère. Un homme qui venait de voler son frère. Et de surcroît, un menteur, en fait. Ce n'est pas étrange que Jacob parle d'une telle façon, en fait. On peut logiquement conclure, sans avoir fait de très grandes études, que, en fait, Jacob n'avait pas pour habitude de donner la dîme, en fait. Un voleur, c'est pas quelqu'un qui va donner la dîme, en fait. Mais à ce moment-là, il a été converti. Et il a pris conscience que là, il va falloir changer les choses. De plus, trouvez-moi un seul verset où le mot coutume est associé à Jacob. Mais voyez-vous, cette fois-ci, il y en a un. Et il se trouve en Genèse 29, verset 26. Et qui parle ici et de quoi? Eh bien, si vous prenez ce texte, je ne vais pas le prendre, mais je vous invite à le noter, vous allez voir que c'est Laban qui parle de ses coutumes à lui, d'accord? En disant que nous n'avons pas pour coutume de faire ça. Et il le dit à Jacob. Mais il ne parle pas des coutumes de Jacob, mes amis. Donc, comme Abraham, en réalité, la Bible ne parle jamais explicitement des coutumes de Jacob. Il est donc de ce fait erroné de conclure que Jacob n'avait pas pour coutume de donner la dîme, et ce, en raison du fait que la Bible ne le précise pas. Ça, c'est des conjectures. On appelle ça des conjectures, mes amis. Et les conjectures n'ont pas leur place dans une étude biblique pour établir des vérités aussi importantes, mes amis. C'est un fait basique, je le rappelle. Pourquoi Jacob, et très précisément, pourquoi Abraham et Jacob ont-ils donné la dîme? Parce que, voyez-vous, Melchisédek n'a rien demandé. OK? Il n'est pas venu pour Dieu donner la dîme. Pourquoi ont-ils donné la dîme? Qui instruisit Abraham et Jacob à donner la dîme? Parce que c'est la question logique qu'on doit se poser à la suite de ça. On ne leur a rien demandé, et pourtant ils ont donné. Mes amis, si vous faites quelque chose comme ça, c'est que vous avez ne serait-ce qu'une notion que cela est agréable à Dieu, en fait. Mes amis, c'est Dieu qui leur a instruit. C'est Dieu qui les a instruits à faire ça. D'accord? Et Madame White nous le dit. Dans Conseil à l'économe, page 71, paragraphe 2. Tel était, donc, se référant à l'expérience d'Abraham et de Jacob quant au paiement de la dîme, la façon d'agir, et en anglais, c'est the practice, c'est-à-dire la pratique, OK? La pratique des patriarches et des prophètes avant l'établissement de la nation d'Israël. D'accord? Je m'arrête là. Je vous laisserai lire la suite plus tard chez vous, parce que j'ai beaucoup de matériel à vous présenter. Ellen White dit que c'était la pratique des patriarches et des prophètes, mes amis. Et vous dites qu'ils n'avaient pas ça pour habitude. Et encore, dans l'ouvrage Patriarches et prophètes, page 511, paragraphe 2, le système de la dîme ne datait pas de l'époque des Hébreux. Dès les temps les plus reculés, Dieu avait réclamé la dîme comme lui appartenant. Cette prescription fut suivie par Abraham qui paya la dîme à Melchisédek, prêtre du Dieu très haut. Genèse 14, verset 20. Exilé et fugitif, Jacob fit au Seigneur à Bethel cette promesse. Je te paierai la dîme de tout ce que tu me donneras. Genèse 28, verset 22. Plus tard, quand la nation israélite fut organisée, l'institution de la dîme fut réaffirmée comme l'une des ordonnances divinement instituées et à l'observation de laquelle la prospérité du peuple était attachée. Ellen White dit qu'elle fut réaffirmée. Elle ne parle ni de description, ni de prescription, mes amis. La chose avait déjà été prescrite d'après l'esprit de prophétie. Notez au passage que durant cette présentation, je vais d'abord prendre ma pioche, c'est-à-dire la Bible, parce que c'est avec ça que je pioche, d'accord? Je pioche pas avec l'esprit de prophétie, d'accord? Le pasteur Jean-Christophe Bolot pioche avec la Bible. Et après, il prend l'esprit de prophétie comme une pelle pour enlever ce qui a été pioché. C'est clair pour tout le monde? D'accord. OK. Qu'est-ce que la dîme? À partir de la minute 8 et de la seconde 18, M. William Cedric Jike déclare qu'est-ce que la dîme? Si on veut savoir ce qu'est la dîme, on part en Lévitique 27, versets 30 à 32. C'est ce qu'on va faire. Lévitique 27, versets 30 à 32. Toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera le cinquième en suze. Mais pour toute dîme de gros et de menu bétail, pour tout ce qui passe sous la verge, le dixième sera consacré à l'Éternel. Après avoir lu ces versets, M. William dit, « Dites-moi, la dîme, c'est 10%, mais 10% de quoi? » Et plus loin, il dit que la dîme était en nature, en expliquant que cela n'avait rien à voir avec l'argent, car il existait déjà à cette période, l'argent, d'accord? L'argent existait déjà à cette période, ce qui est attesté, d'accord? Donc, il dit que l'argent existait déjà, ok? Mais la dîme ne porte pas sur l'argent, elle porte sur les produits en nature, d'accord? Et il affirme également, seuls les propriétaires de fermes devaient donner pour l'entretien des Lévites. Mes amis, quand on ne tord pas les deux premiers textes qu'on a considérés, d'accord? Les deux premiers textes où on nous parle de la dîme dans la Bible, ces derniers nous éclairent, voyez-vous. Ils nous éclairent. Genèse 14, verset 20. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout son bétail, de toutes ses récoltes, de... Qu'est-ce que le texte hébreu dit, mes amis? C'est très simple, il y a un seul mot. De tout. De tout, mes amis. C'est ce que le texte dit. C'est ce que le texte dit. De tout. Et Jacob, ce n'est pas autrement. Genèse 22, verset 22. Genèse 28, verset 22. Et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison de Dieu. Et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. Remarquez, tout ce que tu m'accorderas. Y a-t-il une exception ici? Non, il n'y a pas d'exception. La Bible limite-t-elle la dîme aux récoltes et au bétail? C'est la question que je pose. Maintenant, non, mes amis, car Abraham donna la dîme de tout, et Jacob dit tout ce que tu m'accorderas. Cela inclut tout, mes amis, tout ce que Dieu vous accorde. Monsieur William dit encore, la dîme n'avait rien à voir avec l'argent, mais seulement sur les produits agricoles et fermiers. Et je continue à le citer, lorsque Jésus parle de la dîme, il ne parle pas de l'argent. Et il cite Matthieu 23, verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. » Mes amis, notez que Jésus ici ne parle pas du bétail. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus ne parle pas ici du bétail. Or, si nous suivons la logique de M. William Cedric Jiquet, ce que la Bible ne dit pas est inexistant. C'est la logique qu'il a suivie depuis le départ de son étude. Il dit, la Bible ne parle pas de coutume, donc ce n'est pas obligatoire. Donc moi, je prends sa logique, je la remets ici, parce qu'il faut être logique avec soi-même, mes amis. Jésus ne parle pas du bétail. Donc, la dîme ne concerne pas le bétail, mais que les fleurs. Vous comprenez un peu la logique? Vous voyez le problème qu'il y a avec cette logique, mes amis? On ne peut pas baser une étude sur des conjectures, des conclusions, des conjectures, tout simplement, en fait. D'accord? À partir de la minute 15 et de la seconde 36, M. William déclare, le seul passage que l'on a cité où on a parlé d'argent, c'est dans le rachat de la dîme. Et il cite Lévitique 27, verset 30. D'accord? Relisons-le. Toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits, des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. D'accord? Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera le cinquième en sus, verset 31 que je viens de lire. On nous parle ici de payer la dîme en nature, soit en blé, soit en orge ou tout autre produit de la terre. Pour quelle raison, mes amis? Pour quelle raison? Car il pouvait y avoir des cas où un homme avait besoin de blé pour l'ensemencement et préférait payer en argent plutôt qu'en blé. Et voyez-vous, dans ces conditions, il pouvait racheter la dîme en faisant évaluer le blé et en payant cette somme plus un cinquième. Or, d'après Lévitique 27, verset 30, ou tout du moins, or, après avoir cité Lévitique 27, verset 30, M. William donne l'exemple d'un homme avec un mouton. Il ne prend pas l'exemple du blé, hein? Il prend l'exemple d'un homme avec un mouton. Et quand il a dit ça, les gens n'ont rien dit, en fait. Où est le problème lorsqu'il cite le mouton, en fait? En fait, lorsqu'il fait ça, il montre qu'il n'a même pas compris le texte. Parce que, au verset 33, l'Éternel dit que la dîme du bétail ne peut pas être rachetée. Verset 32 et 33, lisons. « Mais pour toute dîme de gros et de menu bétail, pour tout ce qui passe sous la verge, le dixième en sera consacré à l'Éternel. On ne distinguera pas entre le bon et le mauvais, et on ne le changera pas. Si on le change, OK? L'animal remplacé et celui qui le remplace seront l'un et l'autre consacrés. Ils ne pourront être rachetés. Mes amis, prêtez bien attention à une chose. Le Dieu qui déclara dans le psaume 50, verset 10, « Car tous les animaux des forêts sont à moi, les bêtes des montagnes par milliers. » OK? Ici, on parle du bétail. D'accord? A également dit, en Agé 2, verset 7 à 9, « J'ébranlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations arriveront et je remplirai cette maison de gloire. » De quelle maison parle-t-on ici? Du temple, n'est-ce pas? A dit l'Éternel des armées, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, a dit l'Éternel des armées. Et je mettrai la paix en ce lieu, a dit l'Éternel des armées. L'Éternel parle de l'argent et de l'or que M. William dit ne pas rentrer dans le cadre de la dîme pour dire que ces choses-là vont affluer dans sa maison. Et voyez-vous, l'esprit de prophétie confirme que la dîme ne portait pas uniquement sur les récoltes et le bétail. En effet, en éducation, page 50, paragraphe 3, elle dit « La consécration à Dieu d'une dîme de tous les revenus du verger ou des moissons, des troupeaux ou encore du travail de l'intelligence ou des mains. » Et plus loin, elle dit « Permettait aux enfants d'Israël de garder vivace à l'esprit, la vérité première que tout appartient à Dieu et qu'il avait là la possibilité extraordinaire de transmettre les bénédictions divines. » Remarquez, l'esprit de prophétie dit, ou encore du travail de l'intelligence et des mains. Il n'y a pas que les récoltes et le bétail, mes amis. C'est d'après l'esprit de prophétie. Ça va plus loin. Intéressons-nous maintenant de très près à la théorie des quatre dîmes. Après avoir bien tordu les textes de la Genèse ainsi que ceux que nous avons considérés en Lévitique, M. William commence, à partir de la minute 17 de la seconde 41, à exposer la théorie des quatre dîmes. Et il dit, la première dîme est la dîme des festivités ou des fêtes juives. La deuxième dîme était la dîme pour les Lévites. La troisième dîme était la dîme pour les veuves et les orphelins. La quatrième dîme était la dîme de la dîme pour les prêtres. Il commence par citer Deutéronome 14, versets 22 à 26, comme faisant référence à la première dîme. Puis il saute le verset 27 et explique que Deutéronome 14, versets 28 et 29 parle de la deuxième dîme. Puis il cite Deutéronome 26, versets 12 et 13. Ensuite, il explique que la dîme perçue par les Lévites en Nombre 18, verset 21 et Deutéronome 26, versets 12 et 13 est la troisième dîme. Et termine par dire que la dîme de la dîme que les prêtres percevaient des Lévites est la quatrième dîme et il cite Nombre 18, verset 24 à 26. Puis il continue en lisant Nombre 18, verset 27 à 29 et poursuit en lisant Nombre 18, verset 30 et 31. Enfin, il cite Néhémie 10, 35 à 39, mais ne lit que le verset 38. Et voici un résumé de la théorie des quatre dîmes. Okay? Je l'affiche à l'écran pour vous. Donc, dîme numéro 1, la dîme des festivités, de Deutéronome 14, versets 22 à 26. Toujours de la dîme numéro 2, c'est la dîme des orphelins et des veuves, de Deutéronome 14, versets 28 et 29, 26, 12 et 13. Dîme des Lévites, donc en numéro 3, Nombre 18, verset 21, Deutéronome 26, versets 12 et 13. Dîme des prêtres, Nombre 18, versets 24 à 31. Et Néhémie 10, 35 à 39. Voilà un résumé de la théorie des quatre dîmes d'après M. William Cedric J.K. et d'autres. Il n'est pas le seul d'ailleurs. M. Shoakitu, comme je vous l'ai dit, expose ça. Mais, je vous l'ai dit, il s'agit là d'une théorie, d'accord? Nous allons démontrer qu'il n'y a pas quatre dîmes en réalité. Mais avant de ce faire, je vais vous prouver une dernière fois que la dîme incluait aussi la monnaie. OK? Rendons-nous en Néhémie 10, versets 35 et 36, que M. William n'a pas lu, en fait. Il a lu tout sauf ça. D'accord? Néhémie 10, versets 35 et 36. nous décidâmes aussi d'apporter à la maison de l'Éternel, année par année, les premiers fruits de notre terre et les premiers fruits de tous les arbres et les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes. Je m'arrêterai ici. Quoi? Quoi? Les premiers-nés de nos fils? Cela signifie-t-il qu'on devait stocker dans la maison du trésor des êtres humains? Les mettre en esclavage? Au début du verset 26, Néhémie précise, comme écrit dans la loi. Considérons cette portion de la loi que M. William semble ignorer. Rendons-nous en Nombre 18, versets 15 à 17, pour comprendre comment les premiers-nés des fils étaient stockés dans la maison du trésor. D'accord? Nombre 18, versets 15 à 17. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, soit des hommes, soit des bêtes, t'appartiendra. Seulement, tu rachèteras le premier-né de l'homme. Tu rachèteras aussi le premier-né d'une bête impure. Ces individus-là, premier-né, mes amis, devaient être rachetés. Et c'est ça qui rentrait dans la méthode du trésor, mes amis. En effet, car avant l'épisode de l'idolâtrie avec le veau d'or, les premiers-nés de chaque famille israélite devaient être consacrés à l'Éternel. Mais après, ce sont les Lévites que Dieu s'est choisis. Et c'est pour cela qu'il demanda à ce que les premiers-nés soient rachetés. Or, le rachat se faisait en monnaie, mes amis. Et cette monnaie, d'après Néhémie 10, versets 35 et 36, était apportée dans la maison du trésor. Venons-en donc au point. À savoir qu'il n'y a pas quatre dîmes. Prenons les versets qui, d'après M. William Cedric J.K., enseignent la troisième et la quatrième dîme. Rendons-nous en Nombre 18, versets 20 à 25. On y est déjà, hein? Nombre 18, mais cette fois-ci, lisons du verset 20 à 25. Puis, l'Éternel dit à Aaron, « Tu n'auras point d'héritage en leur pays. Tu n'auras point de portion au milieu d'eux, je suis ta portion et ton héritage au milieu des enfants d'Israël. Et quant aux enfants de Lévi, voici, je leur ai donné pour héritage toutes les dîmes d'Israël en échange du service qu'ils font, le service du tabernacle d'assignation. Et les enfants d'Israël n'approcheront plus du tabernacle d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Mais ce sont les Lévites qui feront le service du tabernacle d'assignation et ce sont eux qui porteront leurs iniquités. Ce sera une ordonnance perpétuelle dans vos générations. Ils ne posséderont point d'héritage au milieu des enfants d'Israël, car j'ai donné pour héritage aux Lévites les dîmes des enfants d'Israël qu'ils prélèveront pour l'Éternel en offrande. C'est pourquoi j'ai dit d'eux, ils ne posséderont point d'héritage au milieu des enfants d'Israël. Puis, je m'arrêterai là, ok? Jusqu'au verset 24. J'ai dit 25, mais c'est jusqu'au verset 24, je devrais lire. Avant de commenter ce texte, j'aimerais vous rappeler quelque chose. C'est-à-dire, ou tout du moins vous rappeler ou vous apprendre quelque chose. C'est-à-dire les différences qu'il y a entre Lévite et sacrificateur. En tant que serviteur du sanctuaire de Dieu, les descendants de Lévi étaient divisés en deux classes principales remplissant des fonctions distinctes. Premièrement, il y avait les prêtres, descendants d'Aaron, ok, d'après Deutéronome 33, versets 8 à 10 et Josué 21, versets 1 et 4, agissant en tant que médiateur entre Dieu et les hommes, effectuant les sacrifices et rendant service dans le sanctuaire lui-même. Deuxièmement, il y avait les autres Lévites, chargés de transporter quant à eux le tabernacle dans le désert en marche, de le dresser, de le prendre en charge lorsque le campement était installé et d'assister les prêtres dans l'exercice de leurs fonctions. Et on cite beaucoup de textes, Nombre 1, versets 50 à 53, chapitre 3, versets 6 à 9, versets 25 à 27, chapitre 4, versets 1 à 33, 1 Samuel 6, verset 15 et 2 Samuel 15, verset 24. Sous le sacerdoce lévitique, Dieu ordonna que la dîme d'Israël soit consacrée au soutien des enfants de Lévi. Vous avez entendu ça? Je reprends. Hein? Sous le sacerdoce lévitique, Dieu ordonna que la dîme d'Israël soit consacrée au soutien des enfants de Lévi. En effet, remarquez tout d'abord qu'au verset 20 et 21, l'Éternel s'adresse à Aaron en tant que représentant de toute la tribu de Lévi, sacrificateur ou pas. Prêtre ou pas, ok? Parce que quand sous la diapo j'ai marqué prêtre, c'est synonyme de sacrificateur, d'accord? Prêtre est égal à sacrificateur, d'accord? Donc, il y avait les enfants de Lévi étaient soit lévites de base, simple, ou soit niveau supérieur, sacrificateur ou prêtre, d'accord? Ok? Donc, le verset 20 et 21, au verset 20 et 21, l'Éternel s'adresse à Aaron en tant que représentant de toute la tribu de Lévi, sacrificateur ou pas. Et cela est confirmé lorsqu'il lui dit au verset 21, et quant aux enfants de Lévi, ok? Mes amis, l'expression enfant de Lévi, je le rabâche, mais c'est pour que ça puisse rentrer, parce que c'est très important, cible les Lévites et les sacrificateurs. Par conséquent, les versets 20 et 21 s'adressent à tous les mâles de la tribu de Lévi, qu'ils soient sacrificateurs ou pas. Et ce n'est qu'à partir du verset 22 que l'Éternel va commencer à cibler les Lévites qui n'étaient pas sacrificateurs. Pourquoi? Car il fait comprendre que seuls ces Lévites pouvaient s'approcher de la tente d'assignation sans mourir. D'accord? Ils n'étaient pas sacrificateurs, mais cependant, ils pouvaient le faire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Lévites et c'était leur charge de s'approcher. OK? Les seuls individus qui n'étaient pas sacrificateurs et qui pouvaient s'approcher du sanctuaire, c'étaient les Lévites. Et c'est ce que le texte commence à dire. Puis l'Éternel poursuit en parlant cette fois-ci à Moïse. À partir du verset 25, en disant, puis l'Éternel parla à Moïse en disant, « Tu parleras aussi aux Lévites, et tu leur diras, quand vous aurez reçu des enfants d'Israël la dîme que je vous ai donnée sur eux pour votre héritage, vous en prélèverez l'offrande de l'Éternel, la dîme de la dîme, et votre offrande prélevée vous sera comptée comme le froment de l'air et comme l'abondance de la cuve. Ainsi, vous prélèverez vous aussi l'offrande de l'Éternel sur toutes vos dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous en donnerez l'offrande de l'Éternel à Aaron, le sacrificateur. Vous prélèverez toute l'offrande de l'Éternel sur toutes les choses qui vous seront données, sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée, et tu diras, quand vous aurez prélevé le meilleur de la dîme, elle sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Et vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre famille, car c'est votre salaire en échange de votre service dans le tabernacle d'assignation. Je vais m'arrêter là. Notez, mes amis, que la dîme de la dîme que les Lévites donnaient aux sacrificateurs était toujours destinée à soutenir non pas des enfants de Juda, non pas des Benjamites, non pas mais des Lévites, des enfants de Lévi, d'accord? Ok? Or, étant donné que cette dîme transitait d'une partie de la tribu de Lévi, à savoir les Lévites, à une autre, vers une autre, à savoir les sacrificateurs, pouvons-nous la classer comme étant une deuxième dîme? Si nous sommes logiques avec nous-mêmes, non, mes amis. Et la raison pour laquelle M. William voit là deux dîmes distinctes et qui ne tient pas compte du fait que la dîme que donnaient les enfants d'Israël était destinée à faire vivre la tribu de Lévi. Des simples Lévites aux sacrificateurs. Toute la tribu de Lévi. Monsieur William et les autres ne comprennent pas qu'il s'agit ici d'une subdivision et non d'une autre dîme distincte. Quand on parle de la dîme, il s'agit d'une subdivision de la dîme destinée aux Lévites, à la tribu de Lévi, et non pas une autre dîme distincte, mes amis. Vous allez me dire, ah, mais tu n'apportes pas de texte d'Ellen White? Patience. Et c'est la même erreur qui l'a conduit à établir les prétendues deux premières dîmes. En effet, rendons-nous en Deutéronome 14, versets 22 à 29. Voyons-nous? Ok. Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le produit de ce que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment, de ton vin, de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Mais si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses porter toutes ces choses, parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom sera trop loin de toi, quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni, alors tu les convertiras en argent et tu serreras l'argent en ta main. Tu iras en un lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Je fais une pause ici. Rappelez-vous que M. William dit que c'était pas sous de l'argent. Qu'est-ce que le texte dit là? Il pouvait convertir en argent. Mes amis, quand vous apportez la dîme en argent, dans la maison du trésor, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas que des bœufs, des moutons et que des graines de blé. Il y avait aussi de l'argent, mes amis, de la monnaie. Mais bon, poursuivons. Verset 26. Et tu donneras l'argent en échange de tout ce que tu désireras. Gros ou menu bétail, vin ou boisson forte, et tout ce que tu souhaiteras. Et tu le mangeras là, devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Verset 27. Et tu n'abandonneras point le Lévite, d'accord, qui est dans tes portes, parce qu'il n'a point de portion ni d'héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu tireras toutes les dîmes de ton revenu de cette année-là, et tu les déposeras dans tes portes. Alors le Lévite qui n'a point de portion ni d'héritage avec toi, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, viendront et mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute œuvre que tu feras de ta main. La dîme de Nombre 18, versets 20 à 31, était exclusivement consacrée au soutien des prêtres et des autres lévites. Or, celle de Deutéronome 14, versets 22 à 29, n'était pas exclusivement consacré au soutien des prêtres et des autres lévites. Il est donc manifeste qu'il s'agit là d'une autre dîme bien distincte, mais pas de deux autres dîmes, plurielles. Je reprends. Il est donc manifeste qu'il s'agit là d'une autre dîme singulier bien distincte et pas de deux autres dîmes, plurielles. Durant 2 ans, l'Israélite devait lever la dîme pour la manger devant l'Éternel, au lieu qu'il aurait choisi, c'est-à-dire devant le sanctuaire. Mais la 3e année, il devait l'employer dans ses portes, c'est-à-dire dans sa maison, dans sa demeure, afin d'exercer l'hospitalité envers l'étranger, qui, comme le Lévite, n'avait pas d'héritage terrestre, ainsi que l'orphelin et la veuve. D'accord? Notez, l'étranger, Lévite, orphelin et veuve. D'accord? Il s'agit là de la seconde dîme, mes amis, qui est destinée à soutenir les plus démunis, à prendre soin des pauvres. D'accord? Et voyez-vous, Madame White en parle. Patriarche et prophète. Et j'ai mis la version en anglaise, mais la référence française va suivre après, parce que ce n'est pas très bien traduit dans Patriarche et prophète, la version française. J'ai mis en anglais. Afin de promouvoir le rassemblement du peuple au service religieux, aussi bien que pour subvenir aux besoins des pauvres, une seconde dîme de tout le revenu était autrefois demandée. Concernant la première, le Seigneur déclara, « Et quant aux enfants de Lévi, voici, je leur ai donné cet héritage, pour héritage, toutes les dîmes d'Israël. » Nombre 18, verset 21. « Mais à l'égard de la seconde, il commanda que tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment, de ton vin, de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu. » Deutéronome 14, versets 23 et 29 et chapitre 16, versets 11 à 14. Il devait, pendant 2 ans, apporter cette dîme ou son équivalent en monnaie à l'endroit où le sanctuaire fut établi. Après avoir présenté un sacrifice de louange à Dieu ainsi qu'une portion spéciale aux prêtres, les personnes ayant présenté l'offrande devaient employer le reste de celle-ci pour une fête religieuse à laquelle les lévites, l'étranger, les orphelins et les veuves participèrent. La provision était ainsi faite pour les sacrifices de louange et les fêtes annuelles. Le peuple était, par ce moyen, attiré dans la société des prêtres et des lévites afin qu'ils puissent recevoir instruction et encouragement dans le service de Dieu. Cependant, tous les 3 ans, cette seconde dîme devait être employée à la maison pour entretenir le lévite et le pauvre, car Moïse avait dit qu'ils la mangeront dans tes portes et seront rassasiés. Deutéronome 26, verset 12. Cette dîme pourvoyait à un fonds pour la pratique de la charité et de l'hospitalité. Remarquez comment l'esprit de prophétie cite les textes que M. William cite et comment elle les classe différemment. Elle ne les classe pas comme M. William les classe. Et deuxièmement, elle dit qu'il n'y a que deux dîmes, mes amis. La dîme qui est consacrée, la dîme de l'Éternel, qui est consacrée, qui est destinée à soutenir ceux qui font le service religieux, et une autre dîme qui est destinée à soutenir les plus démunis, les pauvres, ok, lévites, veuves, orphelins, etc. D'accord? Lorsqu'on fait l'hospitalité, lorsqu'on fait un repas, etc., on invite ces gens-là, en fait. Vous pouvez parcourir l'esprit de prophétie, mes amis. Du premier livre qu'elle a écrit jusqu'au dernier livre, vous ne verrez jamais parler de trois dîmes, de troisième dîme, de quatrième dîme. Elle ne parle que de deux dîmes, mes amis. Et la suite nous le confirme. Dans Pamphlet 148, page 7, paragraphe 2, les contributions demandées aux Hébreux à des fins religieuses et caritatives s'élevèrent largement à un quart de leurs revenus. Une aussi lourde taxe sur les ressources du peuple pourrait être présumée comme un moyen de les réduire à la pauvreté. Mais au contraire, la fidèle observation de ces règles fut l'une des conditions de leur prospérité. Malachie 3, verset 11. Allons-nous, nous qui jouissons de la pleine lumière et des privilèges de l'Évangile, être satisfaits de donner moins à Dieu que ce qui fut donné par ceux qui vécurent dans l'ancienne et moins favorable dispensation? Non, puisque les bénédictions dont nous jouissons sont plus grandes, nos obligations ne sont-elles pas proportionnellement plus élevées? Et moi, je rajoute oui, mes amis, oui. Remarquez une chose, c'est qu'elle dit que les contributions demandées aux Lévites à des fins religieuses et caritatives, donc elle mélange les deux, ok? La première et la deuxième dîme s'élevèrent largement à un quart de leur revenu. Mes amis, un quart de votre revenu, c'est quoi? N'est-ce pas 25%? Or, justement, et c'est là le deuxième texte qui confirme que Mme White dit qu'il ne pouvait pas y avoir plus de deux dîmes, mes amis. C'est parce que c'est 25%. La dîme, c'est quoi? C'est 10%. D'accord. Vous avez une deuxième dîme, ça fait 20%. Et il reste 5%, c'est quoi? C'est pour les offrandes. Si vous avez 4 dîmes, elle aurait dit 40%, mes amis. C'est juste logique, en fait. Et encore d'autres textes que je vais citer en rafale. Welfare Ministry, à la page 274, paragraphe 2. La consécration d'une seconde dîme pour le soulagement du pauvre et d'autres usages de bienfaisance tendait à maintenir constamment devant le peuple la vérité sur la prospérité de Dieu ainsi que leur opportunité d'être des canaux de bénédiction. C'était une formation conçue pour éliminer tout égoïsme étroit et pour cultiver la largeur et la noblesse du caractère. Voilà quel était l'objectif de cette seconde dîme, mes amis. D'accord? Et elle dit aussi qu'elle pouvait être employée pour la construction de sanatoriums dans Needs, 4 juillet 1903, paragraphe 21 et 22. Nos co-ouvriers en Australie répondirent avec entrain et chaleureusement. La seconde dîme fut mise à part pour augmenter le fonds destiné à la construction du bâtiment. Louons Dieu pour notre sanatorium en Australie. Mais aussi pour l'œuvre scolaire d'église. En effet, dans Spalding & Magan Collection, à la page 185, paragraphe 1, le Seigneur désire que les églises, en tout lieu, se saisissent avec davantage d'assiduité de l'œuvre scolaire d'église, donnant librement pour soutenir les enseignants. La question fut posée. La seconde dîme ne pourrait-elle pas être employée pour le soutien de l'œuvre scolaire d'église? Elle ne saurait pas être employée pour un meilleur but. OK? Et encore, dans l'Omalinda Messages, à la page 44, paragraphe 4, je ne trouve pas qu'il soit sage que l'école dépende de la seconde dîme pour couvrir tant de ses dépenses. Si les frères comptent autant sur elle, je crains que les difficultés ne s'accumulent. Vous devriez œuvrer patiemment pour développer ces industries par lesquelles les élèves peuvent en partie financer leurs études. Si je m'arrête ici, dans Spalding & Magan Collection, elle dit qu'elle peut être employée pour le vosculaire d'église, mais pas exclusivement. Elle ne doit pas être l'unique fond pour cela, en fait. Il faut d'autres choses, d'accord? Et il y a encore une déclaration dans Manuscript Releases, volume 7, page 139, excusez-moi, paragraphe 1. En ce qui concerne l'œuvre scolaire, je fus instruite que le plan de ne rien faire payer aux élèves pour leurs cours, dépendant uniquement de la seconde dîme pour soutenir l'œuvre, laissera toujours l'école dans la condition d'embarras financier. Lorsque j'ai pour la première fois entendu ce mouvement, j'ai pensé que je le laisserais résoudre ce problème. Mais je vous le dis à présent, La lumière qui me fut donnée est que d'autres plans doivent être établis à la place de celui visant à soutenir les écoles à partir de la seconde dîme. Les élèves devraient payer un prix raisonnable pour leurs cours. Il y aura une abondance d'endroits pour employer la seconde dîme en faisant un fervent travail missionnaire en de nouveaux endroits. Au passage, je tiens à faire une parenthèse ici. Monsieur William Jick, à un moment, je pense que je ne me trompe pas, il a dit que la dîme pouvait être employée pour aider les élèves à financer leurs études et compagnie. Et j'ai déjà entendu ça, en fait. Des gens, je connais même des gens qui m'ont dit qu'ils envoient leur dîme dans une petite île dans la Caraïbe pour pouvoir aider une école qui a été ouverte par une adventiste et compagnie. Mes amis, il y a des déclarations que je n'ai pas présentées ici parce que je n'ai pas le temps, où Mme White dit qu'il ne faut pas faire ça, en fait, de la dîme du Seigneur. D'accord? La seule dîme qui pouvait être employée à cet effet, mais pas exclusivement, c'était la seconde. Et je tiens à dire une chose. Ce message des deux dîmes, c'est un message que j'ai présenté en juillet 2016. D'accord? Donc, ne pensez pas que Monsieur William m'a permis d'ouvrir les yeux sur cette réalité. D'accord? Puisque bien avant qu'il ne se mette à contredire la théorie de son église, d'accord, de sa dénomination, okay, qui a changé les principes fondamentaux de nos pionniers, eh bien, le pasteur Jean-Christophe Boulotte prêchait déjà la seconde dîme. Ok? Que cela soit clair, au passage. Un autre point, c'est que Malachie ne concerne pas le peuple, d'accord? En effet, à partir de la minute 35 de la seconde 29, M. William cite Malachie 3, 8 à 10, en alléguant que ce passage ne s'adresse pas au peuple, mais aux Lévites et aux sacrificateurs. Puis il cite Malachie 1, versets 6 à 8, chapitre 2, versets 1 à 4, versets 7 à 9, chapitre 3, versets 3 à 5, en disant que ces passages ne parlent que des responsables religieux. Il est vrai que ces textes ne parlent que des responsables religieux, pour les derniers que j'ai cités, d'accord? Mais mes amis, force est de constater que M. William ne cite que les versets qui arrangent sa théorie. Rendons-nous en Malachie 3, car M. William et les autres reconnaissent au moins que c'est le peuple qui versait les offrandes. Il reconnaît dans son message que le peuple versait les offrandes, mais pas la dîme, dit-il. Ok? C'est pas la dîme du peuple qui rentrait dans la maison du trésor, je précise. Ok? Mais c'est les offrandes du peuple, pas la dîme. Ok? Mais remarquez ça. Remarquez. Lisons chapitre 3, verset 8. L'homme trompera-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Donc, M. William reconnaît que les offrandes qui étaient dans la maison du trésor, c'était ceux des enfants d'Israël, mais pourtant, il dit que ça ne s'applique pas aux enfants d'Israël. Donc là, il y a une contradiction. OK? Donc, dans quoi Dieu est-il trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Mais s'agit-il uniquement des dirigeants? Lisons le verset 9. Vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, vous tous, les Lévites et les sacrificateurs. C'est ça qui est dit? C'est ça qui est dit? La nation tout entière, mes amis. Je ne pense pas que la nation tout entière ne comptait que des sacrificateurs et des Lévites. La nation tout entière. Mais alors, si c'était uniquement les Lévites qui remplissaient la maison du trésor avec la dîme de la dîme, comme le prétend M. William Cedric Jick, pourquoi au verset 9 et 10, l'Éternel demande-t-il à la nation tout entière d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes? Tout simplement, mes amis, parce qu'il n'y avait pas que les Lévites, contrairement à ce que M. William dit, qui remplissaient la maison du trésor. Étant donné que les abus reprochés par Malachie sont similaires à ceux qui ont été commis pendant l'absence de Néhémie après son, son premier mandat en tant que gouverneur, il est fort possible que le livre de Malachie soit daté de la période précédant le retour de Néhémie pour son deuxième mandat aux environs de 425 avant Jésus-Christ. Et considérons justement Néhémie, chapitre 13, versets 6 à 12. Où allons-nous? C'est exact. Chapitre 13, versets 6 à 12. Et là, il est dit: « Or, je n'étais point à Jérusalem pendant tout cela, car la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone, j'étais retourné auprès du roi, et au bout de quelque temps, je demandais un congé au roi. Je revais donc à Jérusalem, et alors j'eus connaissance du mal qu'Éliachib avait fait en faveur de Tobija, lui préparant une chambre dans le parvis de la maison de Dieu, ce qui me déplut fort, et je jetai tous les meubles de la maison de Tobija hors de la chambre. Et par mon ordre, on purifia les chambres, et j'y fis rapporter les ustensiles de la maison de Dieu et les offrandes et l'encens. J'appris aussi, et notez bien, que les portions des Lévites ne leur avaient point été données, et que les Lévites et les chantres qui faisaient le service s'étaient enfuis chacun vers son camp. Et je censurai les magistrats, verset 11, et je dis, pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée? Remarquez, hein? Il dit que les portions n'étaient pas versées aux Lévites. Et après, il dit, pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée? Je rassemblai donc, je poursuis, les Lévites et les chantres, et les rétablis dans leur fonction, verset 12. Alors, et notez bien ça, mes amis, hein? Notez bien ça, réveillez-vous si vous dormez, hein? Alors, tous ceux de Juda apportèrent les dîmes du blé, du vin et de l'huile dans les magasins. Monsieur William, ainsi que Monsieur Shoraketu et tous les autres, d'accord, disent que non, les dîmes qui étaient mises dans la maison du trésor, c'était les dîmes, c'était la dîme de la dîme, la dîme que les Lévites donnaient aux sacrificateurs. Mais mes amis, le texte, il est écrit, dit que tous ceux de Juda apportèrent la dîme du blé. Mes amis, une chose. Y avait-il des sacrificateurs ou des prêtres qui émanaient de la tribu de Juda? Non! Non, mes amis! Les prêtres et les sacrificateurs étaient exclusivement de la tribu de Lévi. Donc, quand le texte nous dit ici, alors tous ceux de Juda apportèrent les dîmes du blé, il s'agit ici de monsieur, madame, tout le monde israélite, tout simplement, le peuple. Et voyez-vous, cela est confirmé, et notez-le, en 2 Chroniques 31, versets 11 et 12, d'accord? Cela est même confirmé que ce n'était pas que la dîme de la dîme qui rentrait, mais la dîme tout simplement, en fait, d'accord? OK? Bien que la culpabilité de profaner le temple incombait surtout à la classe des sacrificateurs, celle de retenir les dîmes était principalement imputable aux dirigeants et aux nobles. En tant que dirigeants, ils avaient apparemment donné le mauvais exemple à la population et devait tout particulièrement être tenu pour responsable des conditions déplorables dans lesquelles Néhémie s'était trouvé après son retour à Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, Malachie parle beaucoup contre les responsables religieux, parce qu'ils n'ont pas conduit le peuple à observer leurs devoirs. J'aimerais considérer deux déclarations d'Ellen White. Et nous allons terminer ce message. Conseil à l'économe, page 80, paragraphe 1. Lui qui a donné son fils unique, afin qu'il meure pour vous, il a fait alliance avec vous. Il vous accorde ses bénédictions. Et en retour, il vous demande de lui apporter vos dîmes et vos offrandes. Personne n'oserait prétendre qu'à cet égard, aucune directive n'a été donnée. Le plan de Dieu en ce qui concerne les dîmes et les offrandes est clairement défini dans le troisième chapitre de Malachie. Dieu demande à ses agents humains d'être honnêtes à l'égard du contrat qu'il a conclu avec eux. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, dit-il, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Malachie 3, verset 10. J'ai une question à vous poser, mes amis. Jésus-Christ n'est-il mort que pour les sacrificateurs et les lévites? Pour toute l'humanité. Amen. Et Madame White cite cela en rapport avec Malachie 3, verset 10, en disant, il vous accorde ses bénédictions et en retour, il vous demande de lui apporter vos dîmes et vos offrandes. Donc cela concerne tous ceux pour qui Jésus-Christ est mort et pas simplement que les sacrificateurs et les lévites. Si vous avez regardé toute la vidéo de M. William jusqu'à la fin, je le répète, cette présentation ne traitera que les 40 premières minutes, où il ne, juste la partie où il parle de l'Ancien Testament. La fois prochaine, nous allons nous intéresser au Nouveau Testament, parce que là encore, il y a beaucoup à dire. Vous vous êtes rendu compte que, en fait, la conclusion de cet enseignement, de l'enseignement sur les quatre dîmes, est que les croyants ne sont plus tenus de verser la dîme, en fait. C'est ça la conclusion de cet enseignement. Mes amis, si je vous dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous me croyez? Est-ce que si je vous dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, est-ce que vous me croyez? Conseil à l'économe, page 88, paragraphe 3, 89, paragraphe 1. J'apprends que vous dites aussi que nous ne devons pas payer la dîme. Mon frère, ôtez vos chaussures de vos pieds, car l'endroit où vous vous tenez est une terre sacrée. Le Seigneur s'est exprimé au sujet du paiement de la dîme. Il a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Récemment, j'ai reçu sur cette question un message direct de la part du Seigneur m'indiquant que des pasteurs adventistes et des anciens, c'est ça qu'elle dit? C'est ça qu'elle dit? Non. Que de nombreux adventistes du septième jour trompaient Dieu dans les dîmes et les offrandes. Et il m'a été clairement révélé que Malachi avait décrit la situation telle qu'elle était. Alors, comment un homme osera-t-il prétendre dans son cœur que la suggestion de retenir les dîmes et les offrandes puisse venir du Seigneur? Mon frère, où êtes-vous sorti du sentier de la vérité? Oh, empressez-vous d'y revenir. C'est l'invitation que je lance à M. William, qui est prédicateur adventiste, qui prétend croire à l'esprit de prophétie. D'ailleurs, au passage, vous avez vu que dans son message, il n'a jamais cité l'esprit de prophétie. Vous avez vu ça? Pourquoi? Parce que, mes amis, il y a zéro déclaration qui vont dans son sens. Toutes les déclarations de l'esprit de prophétie sont contre lui, comme on vient de le voir. Ah oui, mais... Et sola scriptura, il faut tout baser sur la Bible, tout baser sur la Bible. Cela voudrait-il dire que l'esprit de prophétie est contraire à la Bible? C'est ce qu'on affirme quand on n'est pas en mesure de passer la pelle après la pioche. Tout comme la Trinité, les quatre dîmes n'existent que dans l'esprit de ceux qui ne laissent pas la parole de Dieu diriger leur foi. Ayant appris que j'allais exposer son enseignement, Venez et Raisonnons nous ont adressé l'email suivant. Et cela va paraître dans la vidéo, hein, ce sera mis. Mais ils ont dit, nous venons vers vous car nous avons été contactés par une personne qui vous suit. Nous ne vous connaissons pas même. Pas, je reprends parce que c'est petit. Nous ne vous connaissons pas, mais apparemment, vous critiquez nos enseignements. Oui, vous êtes libre de le faire, mais nous vous demandons une chose. Si vous êtes sûr de vos enseignements, acceptez un débat public filmé avec la Bible en main sur le sujet de la dîme, Trinité, etc., bien d'autres que vous dites aux gens que nous sommes dans l'erreur. Je pense que Jésus ferait tout pour sauver ceux qui sont dans l'erreur, car c'est facile de faire une vidéo et parler quand l'autre n'est pas présent. Alors, si vous êtes de bonne foi, acceptez un débat public avec la Bible en main. Et le peuple décidera, vu les exposés de la parole de Dieu, ce qui est clair ou confus. Si vous ne tenez pas à ce débat, alors nous vous prions de présenter vos sujets sans parler de nous. Mais si vous êtes chrétien et sûr de vos enseignements, alors je ne vois pas pourquoi vous allez refuser ce débat. Car nous ne vous connaissons pas et nous ne savons pas même votre existence seulement par le biais de cette personne qui nous a partagé ce mail où vous dites que nous enseignons des erreurs. Alors, dans l'attente de votre réponse pour ce débat, passez une bonne journée. Équipe, venez et raisonnons. Alors moi, en bon chrétien, j'ai répondu chaleureusement. J'ai dit, chère équipe, venez et raisonnons. Et j'ai fait une introduction avec la Bible et j'ai dit, je ne comprends absolument pas pourquoi vous me demandez de présenter mes sujets sans parler de vous. Car quand M. William Cedric Dick a parlé de la Trinité dans ses vidéos, il n'a eu aucun scrupule à citer les ministères s'opposant à la Trinité. Exemple, Étoile du matin, qui au passage a traduit le livre du pasteur Alan Stump. D'accord? Comme vous le dites, nous sommes libres de commenter vos enseignements à la lumière de la parole de Dieu. Comme vous avez critiqué ceux des autres par le passé, cela est parfaitement équitable. D'accord? Dans l'une de ses vidéos sous les quatre dîmes, M. Cedric Dick a invité les pasteurs à lui répondre pour lui montrer s'il s'était égaré, en ajoutant qu'il n'aurait aucun problème à faire une vidéo de repentance. C'est donc ce que je m'apprête à faire, c'est-à-dire à réfuter son enseignement en présentant la vérité au peuple, à tel point que ce monsieur, s'il est vraiment sincère, devra ensuite faire cette vidéo de repentance. J'ai déjà observé les débats religieux, et à la fin de ces derniers, aucun parti ne change sa version. Cela n'est pas étonnant, car même après la manifestation de la vérité sous le mont Carmel, les prophètes de Baal ne se sont pas repentis. Au vu des présentations vidéo de M. William Cedric Dick, je crains qu'il ne soit dans un dialogue de sourds. Néanmoins, je reste ouvert aux déclarations personnelles avec ce monsieur s'il souhaite réellement connaître la vérité. Et après, je l'ai salué. Et il m'a répondu. Monsieur Christophe, comment pouvez-vous dire que c'est un dialogue de sourds si vous êtes certain de vos enseignements? Pourquoi refuser le débat? Et surtout, nous faisons les débats même avec les imams et il n'y a jamais eu de bagarre, juste l'exposition de la vérité. L'invitation lancée est justement un débat, pas juste parler de son côté à des personnes qui ne se questionnent pas ou des gens qui vous suivent, mais un débat où les gens jugeront selon les Écritures. C'est justement ça qu'il faut faire. Si vous avez bien écouté les vidéos, c'est ce débat qu'il a lancé. William n'a pas le temps de regarder les vidéos. Nous avons beaucoup de travail à faire et il est constamment en déplacement. Donc, mais après avoir échangé avec lui, okay, il serait ouvert à l'idée de cette rencontre, juste lui donner la date avant et on pourra fixer lieu et inviter les gens à venir et après, cordialement, on verra ce qu'il est clair dans les Écritures. Alors, au lieu de faire un monologue dans une vidéo à des personnes acquises à votre avis, nous pensons, comme on le fait avec des pasteurs et d'autres personnes, le faire devant un public neutre. Vous êtes libre de faire votre vidéo, mais vous ne respectez pas l'appel fait dans toutes nos vidéos, c'est-à-dire accepter une rencontre si vous nous prouvez bibliquement, excusez-moi, nous ferons une vidéo publique pour demander pardon d'enseigner une chose qui n'est pas biblique. Voilà notre promesse. OK? Et donc, nous attendons votre réponse et espérons que vous respecterez au moins notre invitation qui consiste à un débat et pas un monologue en vidéo. Je lui ai répondu, chère équipe Venez Résonant, c'est bien dommage que M. William Cedric Dick n'a pas le temps de regarder les vidéos, car s'il le faisait, il aurait déjà compris qu'il est dans l'erreur. Mais cette explication ne tient pas, car je suis pasteur de plusieurs églises à travers la francophonie et responsable d'une maison d'édition. Et néanmoins, je prends le temps de considérer les enseignements des autres. Les enregistrements vidéo que nous allons bientôt publier donneront une ultime occasion à M. William Cedric Dick ainsi que ceux qui le suivent de connaître ce qu'est la vérité. Mon premier email était clair et complet. Je vais donc le reproduire ci-dessous en guise de réponse à l'invitation au débat. Et j'ai recité mon email. Et il m'a répondu, « Monsieur Christophe, être pasteur ne veut rien dire, car nous avons déjà suivi vos vidéos et c'est rempli d'erreurs. » Mes amis, juste une chose. Au départ, il dit qu'il ne me connaît pas, en fait. Il dit qu'il n'a jamais entendu parler de moi. Et après, il dit qu'il a suivi mes vidéos et que c'est rempli d'erreurs. J'ai trouvé ça étrange. Être pasteur de plusieurs églises ne veut rien dire. Ou avoir une maison d'édition, tout ce que nous souhaitons, c'est, si vous êtes honnête, suite à l'invitation de William pour un débat, si vous fuyez le débat, alors ça ne sert à rien de faire comme si que vous dites c'est vrai. Bon, je lis ce qu'il dit. Hein. C'est malhonnête car... Déjà, je suis malhonnête. Hein, car nous ne voyons personne qui est sûr de ses enseignements fuir un débat pour confronter sa certitude. C'est de la lâcheté. Pourtant, je suis lâche, il a bien invité des gens à venir prouver bibliquement qu'il a tort par un débat, alors il résignera. Mais comme vous refusez, nous n'allons pas perdre de temps à discuter. Mais nous savons que c'est facile d'enseigner des erreurs devant ceux qui n'étudient pas. Alors, vous tous qui êtes là ce matin, vous n'étudiez pas la Bible, d'accord? Parce que j'ai refusé son offre de débat. Vous tous, on a déclaré que vous n'étudiez pas la Bible, d'accord? Alors, j'ai répondu trois textes bibliques
Ne parle point quand on est censé t'écouter, car il méprisera la prudence de tes discours. Proverbe 23, verset 9. Un homme sage contestant avec un homme insensé, qu'il se fâche ou qu'il rit, n'aura point de repos. Proverbe 29, verset 9. Ne réponds point au fou selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Proverbe 26, verset 4. Et j'ai terminé en disant, mais rassurez-vous, car dans mes présentations à venir, je vais uniquement exposer le caractère fallacieux des enseignements de M. William Cedric Jick et non sa vie personnelle. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de lui répondre. Parce que je dis lui, parce que je vois très bien que c'est lui qui m'écrit en fait. Finalement, m'a-t-il répondu, nous voyons clairement que vous fuyez et nous traitez d'insensés. Merci beaucoup. Sachez que c'est facile d'enseigner les erreurs face à des personnes qui ne peuvent pas s'opposer à vos hérésies. Traiter le message adventiste de Babylone et fonder son église dans l'erreur, vous accomplissez la prophétie, mais du mauvais côté. Alors, je tiens à clarifier quelque chose ici. Il dit que je traite le message adventiste de Babylone. Alors, prenez toutes les vidéos que j'ai publiées. Vous n'allez jamais m'entendre dire ça, mes amis. Ce que j'ai toujours dit, cependant, c'est que l'organisation moderne dénommée Église Adventiste du septième jour, qui a changé ses doctrines fondamentales, est Babylone. Mais le message adventiste, tel que contenu dans la Bible, et tous les partisans de M. William Cedric Jick, et même M. William Cedric Jick, ce livre-là, qui a été édité récemment, qui a été publié, je vous l'envoie gratuitement, d'accord? Et vous verrez c'est quoi le véritable adventisme. Et ça, ce n'est pas Babylone. En passant, vous ne connaissez rien sur lui à part vos rumeurs, car vous savez très bien que vous recherchez la notoriété et non la vérité. Donc, je recherche la notoriété et non la vérité, d'accord? Jésus serait venu, comme aussi Paul l'a fait, mais comme vous savez que vous ne tenez sur rien à part contrôler vos membres qui dépendent que de votre opinion sur les Écritures, que Dieu vous guide. Bon, à vous de juger, hein, si je vous contrôle pas, vous... En tout cas, moi, je vous ai cité cette prophétie. Lui, il ne l'a pas fait, d'accord? Vous avez exposé votre caractère. La vidéo est basée sur la diffamation d'une personne qui a volé dans notre ministère et qui a été achetée par la fédération. Ça fait vraiment rire. Nous pensions vraiment que vous étiez une personne qui est sérieuse. Mais c'est tout à fait vrai ce qu'on nous a dit. Rappelez-vous qu'il a dit qu'il ne me connaissait pas. Bon, dommage, car... Nous vous avons donné une possibilité sans tenir compte de ce que les gens disaient de votre secte. Mais voilà, vous avez démasqué votre personnalité et cette lettre sera lue. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et maintenant, vous savez pourquoi je vous ai lu cette discussion? Parce qu'il m'a dit cette lettre sera lue. Cette lettre sera lue. J'échange en privé avec quelqu'un. La personne me dit cette lettre sera lue. Comme si que j'ai peur de cacher quelque chose. Moi, je n'ai pas peur de cacher quelque chose, mes amis. Je vous la lis en entier. Et je préfère vous la lire en entier plutôt qu'il vous la lise dans sa vidéo et qu'il cache des choses qu'il aurait honte qu'on sache. Parce que moi, je n'ai rien à cacher, mes amis. Je vous le dis franchement. Continuez à fuir et prêcher des erreurs. William ne connaît même pas votre existence, mais vous parlez de lui. Car parler derrière les gens est ce croire important. Comme beaucoup de pasteurs, vous montrez votre jalousie et incohérence. Comme tu as le bon esprit, comme avez-vous peur de faire un débat avec un pécheur comme William? C'est lamentable, vraiment votre cas. Cherchez l'existence en diffamant les autres. Et c'est toujours lui, hein? J'ai terminé de répondre, hein? Et il m'envoie un autre email. Vous avez peur de ne plus recevoir la dîme et il met des émoticônes de ricaneur avec des larmes tellement qu'il rigole. Nous comprenons maintenant, au lieu d'aller travailler, vous enseignez les erreurs avec un titre de pasteur dont vous tenez tant. Enseignez les moutons qui ne sont pas lucides. C'est le travail des faux pasteurs. Vos membres ne vous donneront plus la dîme bientôt. Écoutez bien ce que je vais vous dire, d'accord? Je suis dans le ministère depuis 2015, d'accord? Depuis 2015, j'ai arrêté de travailler dans le ministère. Et pour pouvoir être dans le ministère à l'heure actuelle à temps plein, moi, Jean-Christophe Bolotte, je n'ai jamais fait d'appel aux dons. L'éducation à la générosité systématique qu'on fait avant la prédication, qui n'est pas un appel aux dons, c'est une éducation
comme on le voit, les Lévites devaient le faire en Néhémie. Maintenant, moi, il dit qu'il faut le faire. Mais on ne ramasse pas d'argent le sabbat. Ça a commencé l'année dernière, au mois de novembre. Et avant cela, mes amis, j'étais déjà dans le ministère depuis un bon petit moment, mes amis. Par contre, M. William Cédric Djik, il fait des vidéos à gogo pour demander de l'argent aux gens. Je tiens à dire une dernière chose. Après, je vais conclure cette clarification d'email. Parce que comme je vous l'ai dit, je préférais lire l'email en public dans son entièreté avant qu'il ne soit lu et qu'il ne soit transcrit de la même manière qu'il a transcrit l'étude de la dîme, à savoir avec beaucoup de mensonges. Je ne suis pas un ministre évangélique. Je ne suis même pas en réalité un pasteur adventiste. Et encore moins un pasteur adventiste du septième jour. Vous savez ça? Je suis un pasteur adventiste du septième jour non théologiquement modifié. Ça veut dire que dont ces enseignements remontent directement à l'existence d'Ellen White. Et voyez-vous, dans toutes mes présentations, j'ai ma pioche, ma Bible, et je m'appelle l'Esprit de prophétie. Et j'utilise toujours la pioche en premier. Et l'appel vient systématiquement après. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je passe systématiquement l'appel après la pioche? C'est pour que le peuple de Dieu que vous êtes, vous puissiez avoir confiance dans l'Esprit de prophétie. Parce qu'il est dit de sceller la loi et le témoignage parmi les disciples. C'est mon devoir de le faire, de vous montrer que l'Esprit de prophétie se colle avec la Bible, mes amis. Par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Je suis un pasteur adventiste du septième jour, non théologiquement modifié. Je ne suis pas comme ces individus qui sont dans le système et dont les pratiques et les enseignements contredisent l'enseignement de l'Esprit de prophétie. Je n'ai pas honte du haut de la chair à citer l'Esprit de prophétie après avoir cité la Bible. Je n'ai pas honte d'être étiqueté comme un helléniste, un whiteiste. Je l'assume, qu'on le sache haut et fort. Parce que Dieu m'a montré que Mme White est sa messagère. Par contre, M. William Djik prétend croire à l'esprit de prophétie. Et ce matin, durant cette heure, nous avons vu que non seulement il ne respecte pas ce que la Bible dit, mais en plus, il va en opposition totale avec ce que l'esprit de prophétie dit. Mes amis, M. Parminder n'utilise pas la Bible. Mais M. William, oui, il l'utilise. Et il donne beaucoup de textes parfois. Ce n'est pas suffisant, mes amis, d'être en mesure de savoir aligner texte sur texte. Car encore faut-il que ce que l'on aligne soit bon et en accord avec les témoignages que notre peuple a reçus. Chacun prend sa position. En tout cas, moi, j'ai pris la mienne. À savoir de rester sur ce que dit la Bible et l'esprit de prophétie. Les autres font ce qu'ils veulent. Celui qui pète le premier paraît juste, mais sa partie adverse vient et l'examine. L'examen a été fait, mes amis. Et dans la balance, le résultat, c'est pesé et trouvé trop léger. Puisse le Seigneur nous aider à comprendre la vérité, mes amis. Car chaque point de notre foi, mes amis, chaque point de notre foi va être testé. Chaque point de notre foi, mes amis, de notre précieuse foi, va être testé, mes amis. Et ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité vont être criblés, mes amis. tous ceux qui veulent être, qui sont infidèles à Dieu dans leur cœur, Dieu va leur donner l'opportunité de manifester qui ils sont vraiment. Et je comprends pourquoi Dieu permet à des gens comme ce monsieur, je comprends pourquoi Dieu continue à lui donner le souffle de vie pour qu'il puisse prêcher son message, en fait. C'est pour manifester qui est-ce qui suit vraiment la Bible, l'esprit de prophétie, mes amis. C'est tout simplement ça, mes amis. À une époque, je ne comprenais pas pourquoi il y avait tout ça devant d'autres. J'étais même en colère. Je me disais, mais ce n'est pas possible, Seigneur. Le sabbat lunaire et tout ça, etc. Les fêtes juives. Mais on perd du temps avec tout ça. Mais en fait, Dieu m'a dit non, en fait. Non, je suis en train de tester mon peuple, en fait. Pour voir qui sont ceux qui m'aiment vraiment. Qui sont ceux qui sont vraiment attachés. Qui sont ceux qui ont vraiment la foi de Jésus. Il est écrit. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous fasse grâce. Qu'il ouvre nos yeux et notre intelligence. Qu'il nous donne le discernement dont nous avons besoin. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.